Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo, le magazine hebdomadaire de notre web radio Micro Rebelle. Micro Rebelle Hebdo est diffusé chaque vendredi à 18h. Durant une heure et donc jusque 19h. Vous pouvez l'écouter directement sur notre site micro-rebelle.fr ou avec l'appli de la Franf. A noter que nos amis de Radio PFM dans la Rajoie nous rediffusent tous les vendredis à 20h, tous les samedis à 7h30 et le dimanche à 14h. Radio PFM, c'est sur le 99.9 ou en DAB+. Le déconfinement est de plus en plus à l'ordre du jour, avec de nombreuses interrogations. Du côté de Micro Rebelle, nous continuons à vous proposer des analyses, des prises de position qui restent critiques sur les responsabilités de cette crise sanitaire et sur les perspectives qui peuvent se dessiner, à la fois pour en sortir et également pour imaginer une nouvelle société après avoir tiré les leçons de cette crise. C'est tout à fait le sens de ce Micro Rebelle Hebdo du vendredi 8 mai 2020. Nous avons souhaité vous proposer une émission spéciale consacré à cette crise du Covid-19 sous l'angle de la décroissance. Mais avant toute chose, de quoi parle-t-on quand on parle de décroissance? La décroissance s'est fait connaître par la diffusion de quelques slogans pour bien marquer nos esprits. Par exemple, premier slogan, une croissance infinie dans un monde fini est impossible. Ou encore deuxième slogan, plus de liens, moins de biens. Et puis, on connaît maintenant de plus en plus la mascotte de la décroissance, c'est l'escargot qui nous invite à ralentir. Au sein du mouvement de la décroissance, il est possible de relever différentes sensibilités. Cependant, on peut noter une réelle importance attachée à la nécessité de rompre avec le système capitaliste dont l'appétit de profit immédiat passe par l'exigence d'une croissance permanente, entraînant l'exploitation et le pillage de toujours plus d'êtres humains et de la nature. Pour le mouvement de la décroissance, il est impossible de concilier capitalisme et société solidaire et soutenable. Il s'agit donc d'un anticapitalisme qui est en même temps un antiproductivisme qui veut en finir avec l'obligation d'être des forçats du travail et de la consommation et qui a aussi pour but d'en finir avec la société industrielle. Revue de presse maintenant que nous allons consacrer à la presse décroissante. Dans le monde francophone européen, plusieurs journaux et magazines affichent clairement leur sensibilité décroissante. Nous n'avons pas pu nous procurer toutes ces revues, mais la connaissance de leur sommaire est déjà bien significative. Nous commençons par la Suisse, avec le journal Moins. C'est déjà un titre qui se suffit à lui-même. Moins se définit comme un journal roman d'écologie politique. Et son site web est aussi un clin d'œil, puisque son adresse c'est achetezmoins.ch. Au sommaire du dernier numéro, nous avons noté une double page consacrée au coronavirus, ce qu'une pandémie révèle de notre monde malade. À noter également un article consacré à Fukushima, la catastrophe oubliée. En Belgique maintenant, nos voisins nous proposent Kéros, avec en sous-titre « Journal antiproductiviste pour une société décente ». En page d'accueil du dernier numéro de Kéros, ce titre « Le Covid-19 va-t-il tuer le capitalisme ?» et un éditorial intitulé « Le Covid-19 et son immonde ». Extrait. Le coronavirus n'est-il pas une forme d'apothéose de tout ce qu'il se passe depuis longtemps, qui s'inscrit cyniquement et normalement, entre guillemets, dans les productions d'une société qui a fait primer l'hybris, la démesure, sur le bien commun ? Selon d'où l'on se situe, on pourra donc dire que rien ne va dans notre société, mais d'un autre point de vue, que tout fonctionne très bien. Dans le premier cas, on nommera les écarts indécents entre riches et pauvres qui se creusent irrémédiablement, les catastrophes naturelles qui augmentent de par leur nombre et leur ampleur, la disparition de la flore, la dramatique suggestion de la vie humaine aux algorithmes et aux écrans, la sixième crise d'extinction des espèces, etc. Dans le second, on constatera que les multinationales n'ont jamais été aussi puissantes, les médias concentrés aux mains des élites financières et autres grosses fortunes, que les dividendes pleuvent sur des riches de plus en plus riches, que la destruction est créative de richesses concentrées avant tout. Et que malgré tout cela, nombreux croient encore en la théorie du ruissellement. Fin de citation de cet éditorial de Kairos. En France, la revue Silence porte en sous-titre « Écologie, alternative, non-violence » et consacre chaque mois plusieurs articles à la décroissance. Du fait de la crise sanitaire, le numéro d'avril n'a pas été envoyé. La revue s'en explique, je cite « Nous avons décidé de rester fidèles à notre format de revue papier et de ne pas céder aux sirènes du tout numérique, nous incitant, par exemple, à publier des numéros en ligne plutôt que sur papier. Dans une période propice à la numérisation généralisée du monde et de nos modes de vie, il nous semble important de réaffirmer notre positionnement critique à ce sujet. » Fin de citation. Et nous terminons ce tour d'horizon de la presse qu'on pourrait qualifier de décroissante par le mensuel « La décroissance » qui indique en sous-titre « Le journal de la joie de vivre ». La décroissance existe depuis plus de 15 ans et est éditée par l'association Casseurs de Pub. Chaque numéro est illustré de dessins humoristiques et de caricatures et pourfend celles et ceux qu'ils nomment les éco-tartuffes, partisans du capitalisme vert. Le dernier numéro, celui du mois de mai, propose en première page un dessin de l'escargot brandissant une boîte d'un médicament nouveau, la décroissanquine, avec une affirmation « c'est le remède ». Parmi les articles en pages intérieures, un débat à trois personnes sur le thème « La crise sanitaire, une opportunité pour la décroissance ?» Point d'interrogation. Un débat introduit comme suit, je cite « Relocalisation, fin de l'hypermobilité, interruption de l'industrie, réduction de la consommation, mais aussi emprise décuplée de la grande distribution, du numérique, de la surveillance policière, etc. La tragique crise sanitaire que nous sommes en train de vivre présente des aspects très contradictoires pour la décroissance, etc. » Fin de citation. Ce riche débat est donc à retrouver dans la décroissance de ce mois de mai 2020. Je vous propose de rentrer sans attendre dans le vif du sujet au travers de plusieurs reportages qui donnent la parole à des décroissantes et décroissants à propos de la crise sanitaire en cours. Tous ces reportages sont à retrouver en intégralité sur une page spécifique de notre site micro-rebelle.fr. Pour des raisons de format de ce micro-rebelle hebdo, nous vous en proposons aujourd'hui de larges extraits. Nous commençons par un reportage réalisé par Luc, un échange avec Vincent Liéger. Vincent vit à Budapest, en Hongrie, où il coordonne le centre de recherche et d'expérimentation sur la décroissance.
Vincent Liéger, tu es essayiste, chercheur indépendant sur la décroissance. Tout récemment, sur le site projetdécroissance.net, a été publié un article qui s'intitule « Non, le coronavirus n'est pas notre décroissance ». Et effectivement, alors qu'on pourrait croire que la chute de la productivité, la baisse des activités industrielles, l'effondrement du commerce international et tous les bienfaits que cela implique pour l'environnement, on pourrait croire que c'est en quelque sorte une concrétisation soudaine d'une décroissance économique. Alors, pour vous, je dis vous, les décroissants, les décroissantes, c'est pas le cas. En quoi cette récession économique n'est pas une décroissance ?
Ce qu'on est en train de vivre, ou plus exactement de subir de manière très violente, est exactement ce que l'on souhaitait éviter. C'est-à-dire que là, nos slogans depuis toujours, c'est décroissance choisie ou barbarie, ou récession subie. Et là, on est en train de subir une récession, on est en train de subir beaucoup de barbarie par impréparation politique, comme on le dit depuis très longtemps, qu'on le veuille ou non, on va être amené à moyen et long terme à devoir faire décroître notre niveau de consommation, de production, notre empreinte écologique. Et la question elle est, c'est soit on l'organise d'un point de vue politique, d'un point de vue démocratique, d'un point de vue réfléchi, en se réappropriant du bon sens, en se réappropriant des solidarités, du vivre ensemble, c'est ce que nous on appelle un projet de décroissance. Soit on ne l'anticipe pas et ça va faire mal. Et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec un simple virus, qui n'est pas un des virus les plus violents qu'on ait pu connaître dans notre histoire, ça nous montre à quel point notre système est non résilient et c'est les prémices, malheureusement, d'un effondrement en cours et qui va s'accélérer si on ne transforme pas en profondeur notre modèle économique, nos institutions politiques, de manière choisie, si on ne réévalue pas qu'est-ce qui a vraiment du sens en termes de qu'est-ce qu'on produit, comment, pour quel usage. Donc, c'est pas du tout la décroissance que nous, on souhaite, que l'on est en train de vivre. C'est au contraire l'absence de préparation politique autour de la décroissance qui fait qu'on le vit de manière aussi violente et de manière aussi subie.
Alors, est-ce qu'on pourrait pas voir, malgré tout, des effets positifs, si on peut dire, hein? C'est toujours difficile d'analyser la chose en ces termes quand il y a quand même des vies humaines en jeu. Mais au moins sur les effets du confinement, sur la possibilité d'une prise de conscience individuelle ou collective, sur la question de l'utilité sociale des métiers aussi, qui revient beaucoup, l'idée d'aller à l'essentiel, ce que prône la décroissance.
C'est quand même malheureux qu'il ait fallu qu'il y ait un tel virus pour que on arrive à prendre conscience d'un certain nombre de choses évidentes qui étaient jusqu'il y a quelques semaines totalement dans le déni. Alors, il y a quelques semaines, on nous expliquait dans les médias dominants, on nous expliquait dans les journaux dominants et ainsi de suite, dans les débats politiques, de société, dans des colloques, on nous expliquait, ah oui, mais c'est vrai, ce qu'il faudrait, c'est la décroissance, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible de faire ralentir l'économie, c'est pas possible de décider ce que l'on produit ou pas, parce que le système économique est comme ça, parce que ça créerait du chômage, ça créerait des problèmes, etc. Cette aventure malheureuse et subie, et non souhaitable, non souhaitée autour du Covid-19, en fait, nous montre que si on veut, on peut. C'est une première leçon que nous, on essaye de mettre en avant depuis très longtemps avec la décroissance. Et malheureusement, on était enfermé dans cette croyance qu'il est plus facile d'imaginer l'effondrement de notre civilisation que la sortie du capitalisme. Là, en quelques semaines, la moitié du monde s'est confinée, l'économie s'est arrêtée et politiquement, on a choisi de manière peu démocratique, ça a été mis en place, mais on a décidé de se réapproprier l'économie et puis de changer radicalement nos modes de vie pour se protéger contre une maladie. Donc je dirais que c'est un grand enseignement et je pense et j'espère qu'il y aura un avant et un après, parce que cet argument massue qu'on en mettait toujours en avant en disant les décroissants, vous avez raison, mais c'est pas possible, aujourd'hui on a pu voir que c'était possible, que c'est une question de choix politique. Donc ça, c'est un des points positifs. Deuxième point positif que l'on peut voir dans cette mésaventure assez malheureuse, c'est que nous, on souhaitait, on retrouve ça dans plusieurs de nos textes avec mes co-auteurs ces derniers mois, notamment autour de la question des gilets jaunes, autour d'une accélération des conflits sociaux, une accélération dans les inégalités, etc. Et puis aussi autour d'une accélération dans les prises de conscience environnementales et en parallèle d'une dégradation des conditions de vie sur Terre. On a vu une accélération du changement climatique, de la chute de la biodiversité ces deux, trois dernières années. Nous, on appelait à ralentir pour se reposer les bonnes questions, pour revenir à l'essentiel, à ralentir pour simplement se retrouver avec ses proches, se retrouver avec du temps, se retrouver face à des textes, se retrouver avec des livres dans les mains, des films documentaires, etc. Et puis de sortir le hamster de sa cage, ou plutôt de sa roue, parce qu'on était complètement pris dans ce rythme effréné jusqu'à il y a quelques semaines, où je travaille pour payer ma voiture, j'ai besoin de ma voiture pour travailler, et je produis toujours plus pour consommer toujours plus, pour travailler toujours plus, etc. Or, le Covid-19 nous a imposé un temps de ralentissement, une fois de plus non souhaité, avec là aussi beaucoup de problèmes, parce que être confiné quand on est cadre sup, qu'on est en télétravail et qu'on a pu aller dans une résidence secondaire, c'est pas le même type de confinement que si on est agent d'entretien, qu'on habite en banlieue et qu'on est obligé de délaisser ses enfants tout seul à la maison toute la journée pour continuer à aller bosser parce que le travail qu'on fait est essentiel. Donc il y a des inégalités qui sont extrêmement fortes à renforcer avec ça, donc c'est pas souhaitable, souhaité, etc. Mais ça peut être une opportunité pour revenir à l'essentiel, pour faire ce qu'on appelle dans la décroissance une décolonisation de notre imaginaire, c'est-à-dire de faire un pas de côté puis de se reposer les bonnes questions, ce qu'on n'avait pas le temps de faire ces derniers temps. De quoi a-t-on vraiment besoin pour avoir une vie qui a du sens? Se poser les bonnes questions sur quels sont nos besoins fondamentaux et comment on y répond de manière souhaitable, soutenable, comment on repense toute notre société autour de qu'est-ce qu'on produit, comment, pour quel usage, qu'est-ce qu'on partage, où est-ce qu'on passe du temps, comment on souhaite se réapproprier des activités qui ont du sens.
Alors sur cette question des choix politiques, des orientations politiques, j'aimerais mettre ça en perspective avec l'absence de mesures contre le changement climatique. Le changement climatique qui est beaucoup plus mortel que le virus. Et donc, est-ce que ça interroge pas la possibilité de changer de modèle économique?
Ah, c'est vrai qu'il y a une forme, une fois de plus, d'irrationalité dans les décisions qui ont été prises. C'est-à-dire que face au changement climatique, face à la chute de la biodiversité, puis par extension aussi face à des chocs potentiels d'approvisionnement dans les énergies et les ressources premières dont on a besoin pour faire tourner toujours plus vite notre système de croissance, bah, les politiques en place étaient incapables de prendre les moindres mesures. C'est-à-dire que on avait l'impression que l'irrationalité, de la pseudo-rationalité économique restait supérieure à tous les rapports scientifiques et même ce qu'on commençait à observer de manière assez forte et inquiétante autour de cette accélération dans l'effondrement environnemental et énergétique. Alors, rien n'a été fait et d'un seul coup, pour un simple virus, je ne minimise pas le nombre de morts, je ne minimise pas les tragédies vécues par certains, mais c'est pas la pire des choses que l'on peut vivre et qu'on risque d'être par rapport à ce qu'on risque d'être amené à vivre. Je dirais que c'est vraiment un prémisse, c'est vraiment une petite alerte par rapport au changement climatique ou la chute de la biodiversité et ses conséquences sur nos vies et la vie de nos générations futures. Donc un simple virus nous a amené à prendre des mesures exceptionnelles qu'on n'était pas capable de prendre il y a quelques mois. Et là, ça interroge et il va falloir vraiment pousser les débats de manière extrêmement forte sur ce que nous on appelle un certain imaginaire dominant dans cette société de croissance. On peut appeler ça l'économicisme, la religion de l'économie. C'est qu'on avait et on a des élites politiques, médiatiques, économiques, même parmi les fonctionnaires, etc., ou les chefs d'entreprise, qui sont totalement enfermés dans la religion de l'économie et qui n'arrivent pas à aborder, à penser le monde à l'extérieur de leurs indicateurs macroéconomiques qui représentent ce qu'ils veulent bien représenter, qui en général sont totalement contradictoires et très limités, comme tout indicateur, et qui du coup nous imposent systématiquement cette fuite en avant croissanciste. Avant la mise en place du confinement et d'un certain nombre de mesures contre le Covid-19, la plupart des gouvernements occidentaux ont fait le choix de l'immunité collective. Ils ne l'ont pas avoué, ils ne l'ont pas présenté comme tel. Ils ont dû mettre en place des confinements et des mesures sanitaires extrêmement fortes, souvent aveugles, contradictoires, imposées, voire avec des dérives totalitaires, faute de préparation au préalable par rapport aux choses. Donc ça nous alerte sur ce qui risque de se passer avec le changement climatique. Et sous couvert de mettre en place des mesures sanitaires, l'objectif numéro un reste de relancer la machine économique.
Web Radio indépendante de Bassamini, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
Nous sommes toujours dans notre édition spéciale consacrée à la décroissance partant de Covid-19. Nous venons d'écouter Quantum Jazz, un groupe danois. C'est bien sûr de la musique libre, comme toujours sur Micro Rebelle. notre édition spéciale se poursuit avec maintenant des voix féministes et locales. Nous écoutons Émilie, citoyenne écolo et féministe, qui a pu s'investir au sein d'un groupe de travail « Féminisme et décroissance » mis en place par les objectrices et objecteurs de croissance du Pas-de-Calais. Nous écoutons Armelle, membre du collectif des objecteurs et objectrices de croissance du Pas-de-Calais et militante féministe. C'est un reportage réalisé par Elsa.
Pour son dossier spécial sur la décroissance, Micro Rebelle a choisi d'aborder ce thème de point de vue féministe. Alors pour cela, nous avons interrogé Armelle, militante décroissante et féministe, membre du collectif des objectrices et objecteurs de croissance, 62. Et Émilie, citoyenne écolo et féministe, qui a participé aux réflexions menées par le groupe de travail Féminisme et décroissance, initié par ce même collectif. Bonjour Armelle, toi tu es militante décroissante et féministe et tu fais partie du collectif des objecteurs et objectrices de croissance 62. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce groupe et en quoi elle consiste ?
Oui, alors le groupe des objecteurs 62, c'est du Pas-de-Calais, en fait existe depuis 2008. Et c'est un groupe qui essaie de faire vivre les idées de la décroissance dans notre région. Donc, c'est un groupe qui est constitué de femmes et d'hommes qui ont pris conscience des ravages sociaux et environnementaux qui résultent de la société de croissance. Donc, voilà, comment on fait essayer de faire vivre les idées de la décroissance? Et bien, ce groupe se réunit tous les mois, une fois par mois. Le quatrième jeudi de chaque mois, en fait, au LAG, avenue Jean Jaurès à Liévin. Et ce sont des réunions qui sont publiques, ouvertes. Et donc, depuis 2 ans maintenant, on travaille sur des thématiques trimestrielles. C'est-à-dire que chaque trimestre, on choisit un thème de réflexion et de travail, puisqu'on y travaille. Donc, et c'est à partir de ce thème, on essaie de se former. À l'issue du trimestre, on rédige un journal. Donc maintenant, on a un journal thématique qui paraît tous les trimestres, qui est disponible gratuitement au LAG aussi. Et on invite à chaque fois aussi un conférencier ou une conférencière qui sur le thème. Donc, par exemple, les thèmes qu'on a choisis, c'était l'agriculture paysanne, l'extractivisme, le tourisme, la société du numérique, avec Hervé Krief qui est intervenu il y a quelques mois. Mais aussi, là, le thème que l'on travaille actuellement, c'est l'urbanisation. Et donc, on avait choisi d'inviter Guillaume Faburel, qui a écrit un livre qui s'appelle « Métropole barbare ».
Bonjour Émilie, alors tu es citoyenne écolo et féministe, tu as fait partie du groupe de travail Féminisme et décroissance, initié par le collectif des objectrices et objecteurs de croissance 62. En quoi consistait ce groupe de travail et qu'est-ce que vous y avez fait et pourquoi l'avoir rejoint ?
Le groupe de travail Féminisme et décroissance, c'est parti de quelques personnes du groupe des objecteurs et objectrices de croissance 62, donc du Pas-de-Calais. Moi, j'en ai pas fait partie dès le début, c'est une amie collègue qui m'en a parlé. L'idée, c'était de travailler ensemble sur les notions de féminisme, de l'égalité homme-femme, dans une perspective de décroissance. Il y avait vraiment dans le groupe la volonté d'apprendre, de s'informer, de se former ensemble. En fait, on décidait des thématiques qui nous intéressaient, on en discutait, on en sortait une première analyse un peu partagée. Et puis après, chacun et chacune s'engageait à lire tel livre ou tel article. Et à chaque réunion, on se faisait un retour, une analyse de ce que nous avions lu. Tout était rediscuté ensemble et puis ça aboutissait sur des nouvelles questions, etc. Donc c'était vraiment... vraiment un groupe de travail ou un peu avec une idée d'auto-formation là-dessus, quoi.
On se rend compte à travers ce que vous expliquez que par le prisme de la décroissance, on touche à beaucoup de sujets très différents. Tout d'abord, Émilie et Armelle, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'est pour vous la décroissance ? Comment vous la définissez ?
Pour moi, la décroissance, c'est surtout l'idée... Que les ressources naturelles, les ressources de la planète sont limitées, donc forcément on ne peut pas les consommer sans fin. On est obligé de réfléchir à comment on les consomme, comment on les utilise, ce qu'on exploite, parce qu'on exploite en partie quand même ces ressources-là, pour pas pénaliser les ressources pour les générations futures, pour pas pénaliser forcément la biodiversité, le climat, etc.
Pour les objecteurs, nous tels qu'on voit au niveau du groupe, c'est un projet politique avant tout qui propose un ensemble d'alternatives et d'idées concrètes pour sortir de la logique économique dominante. Donc ça, c'est vraiment... Alors, parce que souvent on associe décroissance et simplicité volontaire, mais la décroissance n'est pas que la simplicité volontaire, loin de là. C'est un vrai projet politique qui se structure, avec qui propose des alternatives et qui se structure autour d'idées fortes, comme le ralentissement, enfin la relocalisation, la simplicité volontaire, le partage aussi. Je pourrais compléter plutôt en disant la première des décroissances aussi, pour nous, c'est celle des inégalités. Des inégalités économiques, mais aussi sociales. Donc, je te disais qu'en fait, c'est vraiment un projet politique, économique et social, hein, qui est né dans les années 70, ça, et qui considère que la croissance économique, en fait, elle apporte plus de nuisances que de bienfaits à l'humanité. Donc, en fait, elle part sur une critique du processus d'industrialisation que l'on connaît depuis de nombreuses années et ses conséquences négatives, dysfonctionnement de l'économie, aliénation au travail et pollution. Donc responsable de la détérioration des écosystèmes et de la disparition des espèces animales. Donc, ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on vit profondément, d'ailleurs. Donc, les décroissants ou objecteurs de croissance, parce que bon, on utilise les deux termes, même s'il y a un peu une dénomination un petit peu différente parfois, se prononce pour une éthique de la simplicité volontaire. Mais concrètement, en fait, c'est surtout réviser les indicateurs économiques de richesse, une critique du PIB, et repenser la place du travail dans la vie pour qu'il ne soit pas aliénant, et celle de l'économie, de toute façon, pour réduire les dépenses énergétiques et l'empreinte écologique. Voilà. C'est une critique, en fait, qui s'inscrit dans la continuité du productivisme et qui dépasse aussi celle du capitalisme et de la société de consommation.
On se rend bien compte, en entendant les définitions que tu donnes, qu'effectivement, ça ne se réduit pas, comme on pourrait le penser, à fermer le robinet quand on se brosse les dents, ou pas seulement quelque chose d'individuel, ça en fait partie, c'est ce que j'imagine, tu parles de simplicité volontaire, mais ça va au-delà, quoi.
Ça va bien au-delà, quoi. On est aussi sur une critique du travail et de la place du travail dans nos vies, sur ce qui fait valeur, ce qui fait richesse, en fait. Hein. On est, et bien sûr, sur le collectif aussi, c'est important et fondamental, c'est la notion du collectif face à celle de l'individualisme d'aujourd'hui. Je dirais, c'est une réduction drastique du temps de travail, c'est une réduction aussi des inégalités. Parce que, en fait, c'est aussi ça, aujourd'hui, notre vrai souci, c'est celui-là. La décroissance ne peut s'inscrire que dans une lutte contre les inégalités.
En parlant d'inégalités, justement, vous, en tant que féministe, comment associer féminisme et décroissance ?
Ouais, alors justement, je dirais une phrase qui n'est pas de moi, mais je trouve très juste par rapport à cela. La décroissance, c'est bien le féminisme, luttant contre les conditionnements machistes et patriarcaux auxquels notre société, modèle de société nous a conduit. En fait, je pense, tu vois, pour moi, ça définit vraiment le lien entre décroissance et féminisme. On est vraiment dans la même lutte, en fait. Et alors après, il y a un courant actuellement aussi qui s'appelle l'écoféminisme, hein, qui pourrait, et donc une phrase qui est assez symbolique, c'est « ni la terre ni les femmes ne sont territoires de conquête ». Mais concrètement, hein, comment on peut faire vivre décroissance et féminisme ? Comme la décroissance repose la question de la place que l'on donne au travail, de la valeur aussi que l'on donne aux actes de qu'est-ce qui est le plus important pour nous, en fait, hein, dans notre vie, on repense aussi, par exemple, la place du domestique, tu vois. Et le domestique est souvent quelque chose qui est confié aux femmes, qui est dévalorisé dans nos sociétés, capitalistes et machistes. Et donc, ça impose obligatoirement, si on veut que les décroissants souhaitent que le domestique, la part du domestique reprenne sa juste place dans nos sociétés. Quand je dis le domestique, ce sont toutes les activités liées aux soins, à la famille. Ce sont les activités liées aussi qu'est-ce qu'on mange. Enfin, voilà. Donc, la simplicité volontaire aussi implique que l'on prenne plus de temps aussi pour... moins de place pour le travail, mais plus de place pour le travail domestique. Et donc, ça impose obligatoirement de repenser la place des hommes et des femmes dans nos sociétés et une véritable égalité, quoi. Il faut, ce qu'on dit, c'est qu'il faut remasculiniser, en fait, les pratiques domestiques, en fait. Il faut qu'elles reprennent de la valeur dans la société et que les hommes s'y investissent beaucoup plus pour qu'effectivement il y ait une réelle égalité entre hommes et femmes, et que les femmes aussi puissent prendre plus de part à la vie politique. Alors, par contre, c'est vrai que c'est une question importante. Quand on dit donner plus de place au domestique, ça veut dire aussi donner plus de temps, mais ça n'exclut pas non plus, alors après il ne faut pas non plus avec simplicité volontaire, ça n'exclut pas non plus quand même que l'on réfléchisse à ce dont on a besoin en tant qu'hommes et femmes par rapport à ces problématiques. Par exemple, quels sont nos besoins, quel temps on souhaite y consacrer, est-ce qu'on souhaite que tout soit manuel, et parce que c'est des tâches qui sont habituellement prises en charge par les femmes. Donc il faut pas. Et il faut y réfléchir ensemble sur le temps qu'on souhaite y donner. Et peut-être qu'il faut se dire aussi, elle doit avoir plus de place dans nos vies, mais il y a une petite partie qui peut continuer, une partie qui doit continuer à le faire de manière mécanique, tu vois. Ouais. Et qui dit mécanique dit industrialisation. Donc, comment on fait pour, dans une société décroissante, pouvoir, par exemple, je pense au lavage du linge. Bon, les hommes vont prendre plus de temps pour laver le linge, mais est-ce qu'on va laver le linge à la main? Peut-être pas quand même, c'est pas forcément plus de bien-être. Donc ça veut dire qu'il faudra peut-être avoir des petites unités qui produisent des machines à laver, mais qui soient gérées collectivement. Donc ces questions-là, elles doivent être réfléchies ensemble, hommes et femmes. Et ça veut dire que les femmes, elles doivent surtout aussi prendre de la place dans la vie publique et dans la vie politique.
Pourquoi associer féminisme et décroissance ? Moi je vais pas parler de comment moi je le voyais de manière personnelle. Moi je me suis rendu compte qu'avec tout ce qui est notion de décroissance, auquel je suis assez sensible depuis longtemps, on s'interroge sur nos modes de consommation, sur notre rapport à la nature aussi. Et une des réponses, ça va être par exemple de moins consommer de produits transformés, de moins acheter de produits issus de nouvelles technologies, de réfléchir à nos modes de déplacement, etc. Et donc ça veut dire forcément prendre un peu plus le temps pour tout ça, pour concrètement cuisiner, se déplacer, faire le ménage, etc. Et souvent ce temps-là, ce sont les femmes qui le prennent. Ces activités, ce sont les femmes qui les prennent en charge. Et du coup, pour moi, la question, c'était comment être en accord avec mes valeurs de décroissance, d'écologie, avoir un moindre impact sur l'environnement, mais ne pas tout prendre en charge, que cette charge-là soit partagée à part égale avec les hommes, qu'on ne perde pas les acquis des générations passées sur l'égalité homme-femme, d'autant qu'elle n'est pas encore gagnée. Voilà. Donc pour moi, c'était important. Parce qu'on critique aussi souvent tous les mouvements écolos, de revenir en arrière, etc. Pour moi, c'est pas un retour en arrière, mais c'est vrai qu'il faut pas oublier cette dimension sociale, l'égalité homme-femme, et puis même plus largement, dans les discussions qu'on a pu avoir dans le groupe, c'était aussi sur tout ce qui est finalement minorité, personnes opprimées. On associe souvent le capitalisme, tout ce qui est exploitation, finalement aussi l'exploitation des hommes sur les femmes, et puis aussi globalement sur les minorités ou les populations opprimées.
Alors on entend beaucoup dans les médias actuellement pendant cette crise sanitaire du Covid-19 que nous sommes en période de décroissance. À ton avis, est-ce que nous sommes en ce moment en période de décroissance et pourquoi ?
Est-ce qu'on est en période de décroissance en ce moment avec le confinement ? D'un côté, oui, forcément, parce que tout simplement, on se déplace moins, donc on utilise beaucoup moins de ressources naturelles, beaucoup moins de voitures, d'avions, etc. Finalement aussi, à titre individuel, on se retrouve à plus cuisiner, plus prendre le temps, etc. Donc oui, je dirais qu'on est plutôt en période de décroissance. D'ailleurs, les grands titres des journaux, ça va être chute de la consommation, chute de la croissance, comme si c'était une catastrophe en soi. Pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, la question, c'est plutôt comment est-ce qu'on répartit ces richesses et comment on fait en sorte que d'être en décroissance, ça soit quand même une valeur et qu'on revalorise finalement tous les métiers liés au vivre ensemble ou juste au vivre tout court. Ça faisait aussi partie des questions qu'on avait aussi, c'était la revalorisation de toutes les activités finalement qui participent à la vie de la société. Par contre, je suis pas forcément persuadée que cette décroissance dure après le confinement. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'on revienne à comment c'était avant le confinement. J'espère que j'espère que certains prendront le temps de se dire qu'est-ce qu'on a appris de ce confinement, quelles sont les choses qu'on veut plus faire pareil. Peut-être qu'il y aura un sursaut. J'en suis pas persuadée, mais je le souhaite quand même. Voilà.
Alors ma réponse est claire, nette et définitive. C'est non, nous ne sommes pas en période de décroissance telle que nous, vegetaires de croissance, nous projetons une société de décroissance. Ça ne ressemble absolument pas à ce que nous prenons en fait. Aujourd'hui, on est sur un ralentissement de l'économie qui est inquiétant du point de vue social, démocratique et humain. En fait, c'est une récession en fait, qui même va avoir des conséquences qui sont totalement contraires à ce qui doit émerger d'une décroissance choisie. Alors, c'est peut-être une occasion à saisir pour repenser notre modèle de société, pour qu'il soit en mesure d'éviter ce genre de choc ou mieux les absorber. Mais en tout cas, pour nous, aujourd'hui, la situation actuelle, c'est un accélérateur des inégalités. Et c'est absolument pas, et c'est là aussi le monde du travail qui va imposer sa marche à suivre et qui va générer encore plus d'inégalités, avec en plus une tentation autoritaire. On voit ces derniers temps que nos libertés sont vraiment en danger, toutes nos libertés, et ça c'est à l'opposé. Donc c'est pas une réjouissance, au contraire, c'est plutôt un échec qui nous démontre que il faut absolument réfléchir une société de décroissance et la mettre en route. Il faut un changement dans nos comportements et une transformation en profondeur de ce modèle de société qui est mortifère.
Pour conclure, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ?
Moi je vous invite, j'invite tout le monde à peut-être aller lire effectivement des articles, des livres sur la décroissance. Donc je pense à André Gorz, 107 ans par exemple, qui est un des précurseurs de la décroissance. Et une des phrases, une des citations qu'il dit, il est impossible d'éviter une catastrophe climatique sans rompre radicalement avec les méthodes et la logique économique qui mènent depuis 150 ans. La décroissance est donc un impératif de survie. Elle suppose une autre économie, un autre style de vie, une autre civilisation, d'autres rapports sociaux. Donc tout est à inventer et nous, ce qu'on dit souvent au niveau des décroissances, c'est décolonisons notre imaginaire. Allons-y, décolonisons, essayons de sortir de ces schémas que nous avons, qui nous sont imposés par la société capitaliste sur les rapports hommes-femmes, sur le pays, la croissance comme seul objectif économique. Donc pour ça, André Gorz, il y a d'autres penseurs aussi, d'autres plus contemporains, Serge Latouche, Paul Ariès, n'hésitez pas. À la Bibliothèque du Lac, nous avons quelques livres à vous proposer sur le thème. N'hésitez pas à venir nous voir jeudi, le quatrième jeudi de chaque mois, en fait. Et on espère bien pouvoir se réunir là le quatrième jeudi du mois de mai.
Et on aura toutes les infos sur le site du Lac, j'imagine, lelac.fr.
Alors sur lelac.fr, vous avez les réunions des auditeurs de croissance, mais les auditeurs de croissance du Pas-de-Calais ont aussi un site où il y a beaucoup de ressources bibliographiques. Objecteurs de croissance 62, toutcollé.fr, c'est le site des auditeurs de croissance et vous pourrez y voir nos publications, des articles amis, enfin voilà.
Merci Armelle et Émilie d'avoir expliqué ce qu'est pour vous la décroissance d'un point de vue féministe.
Nous allons maintenant conclure ce micro-rebelle hebdo spécial décroissance et Covid-19 au travers d'un échange avec Bernard Legros, objecteur de croissance en Belgique. N'hésitez pas à vous rendre sur microrebelle.fr pour accéder à l'intégralité de ces échanges. Pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.
Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau reportage réalisé en pleine crise du Covid-19, en pleine période de confinement. Micro-Rebelle a souhaité porter un accent particulier sur ce qu'est la décroissance, notamment parce que de nombreux médias ont assimilé la période actuelle de récession à de la décroissance. C'est ainsi que, au travers de plusieurs échanges, nous donnons la parole à des actrices et acteurs de cette sensibilité, autrement dit, à des objectrices et objecteurs de croissance. Aujourd'hui, je suis avec Bernard Legros. Bernard est objecteur de croissance en Belgique et enseignant. Il a écrit ou coécrit plusieurs livres qui abordent les questions de la décroissance ou de l'éducation. Il écrit régulièrement des chroniques dans le mensuel français La Décroissance, ainsi que dans Kéros, journal antiproductiviste belge. Alors Bernard, une première question. Il est beaucoup question de l'utilisation du numérique durant cette période de confinement. Au-delà de l'utilisation, qu'est-ce que nous enseigne la crise du Covid à propos des enjeux du numérique?
Le grand danger est ce que Naomi Klein appelle la stratégie du choc ou le capitalisme du désastre, et que les maîtres du monde ne profitent évidemment de cet état de sidération et d'abattement des populations actuelles pour faire passer toute une série de mesures de régression sociale, économique et civile. Et à partir de cette intention politique désastreuse, d'utiliser évidemment l'outil qui est parfaitement adapté à cela actuellement, c'est-à-dire le numérique. Et comme les citoyens étaient déjà, avant la crise du Covid-19, très habitués à utiliser le numérique dans leur vie quotidienne, et bien maintenant qu'ils sont confinés, ça a encore pris une dimension supplémentaire, ce qui évidemment ne laisse pas d'inquiéter sur les capacités d'aliénation que peuvent avoir les écrans et tous les objets technologiques dans la vie quotidienne. Donc ils ont pris de plus en plus d'importance. On sait que la consommation d'Internet a augmenté, forcément, pour les apéritifs virtuels, pour tenir des contacts avec ses amis, sa famille, et qu'on n'a pas trop le choix de toute façon. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va s'ancrer encore davantage dans les habitus de la population à l'occasion du confinement ou pas? Ça, c'est la grande question. Alors, une fois le déconfinement en marche, est-ce que les gens vont garder le pli de continuer à utiliser, surutiliser Internet? Ou bien au contraire, vont-ils se précipiter vers les relations en direct, physiques, les relations réelles, qui leur auront tant manqué pendant le déconfinement? Donc ça, c'est quelque chose qui est difficile à prévoir. Moi, je souhaiterais évidemment que ce soit la deuxième option, on s'en doute, mais je n'en suis pas du tout certain. Alors ça, c'est du côté de la réaction de la population.
Et du côté de l'industrie du numérique,
tous les turiféraires, tous les promoteurs de l'économie numérique voient évidemment d'un très bon œil ce qui se passe ici et vont essayer par tous les moyens d'ancrer davantage encore notre dépendance à l'outil Internet. Alors, je vais prendre deux exemples, le fameux backtracking, le traçage numérique, que de plus en plus les médias sont en train de promouvoir auprès de la population, donc ils ne sont de nouveau pas du tout impartiaux, et ils comptent au contraire convaincre la population, les auditeurs et les lecteurs du bien fondé d'un traçage digital des populations. Alors que, comme certains médecins le disent, il n'y a pas du tout besoin d'utiliser le numérique pour établir un certain traçage épidémiologique des malades potentiels. Donc, du temps de la tuberculose, on savait déjà très bien comment effectuer un traçage avant toute existence d'Internet. Bon, mais ça, c'est pas ce qui est à l'ordre du jour, évidemment. Des nouvelles applications avec Bluetooth notamment, pour pouvoir faire ce traçage au mépris de la vie privée, bien qu'on prétende donner des garanties qui sont évidemment totalement illusoires. Qui peut garantir que ces données-là seront détruites après X jours? Évidemment, personne ne peut garantir ça.
Tu évoquais deux exemples.
Moi qui suis enseignant, je suis particulièrement concerné par ce qui se passe avec l'école numérique. Bon, je n'enseigne plus pour le moment, mais je vois ça d'un petit peu loin. Évidemment que l'école numérique, déjà existante avant la crise, a pris encore plus d'importance. Et il y a à craindre qu'on garde le pli, notamment les parents d'élèves, mais aussi les enseignants et surtout les décideurs politiques dans les ministères, qui eux avaient déjà l'intention depuis longtemps, de toute façon, de répandre l'école numérique. Alors ici, ils auront beau jeu de dire que sans cela, nous aurions été dans une fameuse panade, et que heureusement que l'outil Internet était là pour permettre aux élèves de garder la tête hors de l'eau sur le plan des apprentissages. Bon, ça c'est le discours évidemment de promotion. Mais quand on regarde un peu plus près, eh bien, beaucoup de parents ont été sidérés, par exemple, de la quantité de travail que des professeurs, des enseignants pouvaient envoyer à leurs élèves. Des quantités de travail astronomiques, plus que d'habitude, plus que pendant les périodes habituelles et normales, et non seulement des exercices de révision, mais en France en tout cas, des nouvelles matières, ce qui par contre a été interdit par la ministre de l'Enseignement en Belgique, qui a bien dit qu'on pouvait organiser des révisions, des exercices, mais en tout cas ne pas aborder de nouveaux apprentissages. Ce qui est, pour moi, une très bonne décision. Alors, de toute façon, la question, c'est, va-t-on revenir en arrière, ou bien, parce qu'on considère que c'était une période exceptionnelle, ou bien est-ce qu'on aura ce qu'on appelle un effet de cliquet? Et moi, je pense qu'on aura plutôt l'effet de cliquet. Et c'est pour ça que il va falloir se mobiliser, il faut comment déjà le faire maintenant, et essayer de convaincre les parents, surtout eux qui sont les acteurs pivots dans l'affaire, que l'école numérique ne peut être qu'un pis-aller en matière d'apprentissage, de pédagogie, et que le présentiel, comme on dit en langage managérial, est quelque chose d'absolument irremplaçable, et c'est par là que passe d'ailleurs tout acte pédagogique.
Il n'y a apparemment plus de doute. Nous sommes en pleine récession économique. Cette récession, est-ce que c'est de la décroissance?
Je dirais oui et non, mais principalement non. Alors pourquoi est-ce que ça pourrait être oui? C'est-à-dire qu'il y a effectivement une décroissance du produit intérieur brut, qu'on le constate, mais c'est une décroissance qui est subie et qui provoque pas mal de souffrances pour beaucoup de travailleurs, notamment des indépendants. Il ne faut pas se réjouir, évidemment, de ce type de décroissance, Alors, bien entendu, les ennemis de la décroissance, comme Luc Ferry, ont déjà sauté sur l'occasion pour clamer dans les médias que, voilà, où pouvait mener la décroissance. Alors, pas du tout, évidemment. Dès le départ, les objecteurs de croissance ont toujours dit que la décroissance était quelque chose d'à la fois inévitable et de souhaitable. Et comme c'est souhaitable, il fallait l'organiser, il fallait l'anticiper, et il fallait le choisir. Ce que nous n'avons pas fait. Maintenant, est-ce que cette décroissance subie peut se transformer plus tard en décroissance choisie? Ça, de nouveau, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre actuellement. Tout dépend aussi de la propagande que nous aurons dans les médias. Cette propagande, évidemment, dans les médias traditionnels, les grands médias, ne sera évidemment pas favorable à l'idée de décroissance. Donc ils essaieront d'amalgamer celle-ci avec la récession ou même la dépression économique. Enfin, ce qui se passe montre bien qu'une société de croissance sans croissance est la pire des choses, comme disait déjà Serge Latouche il y a 15-20 ans d'ici.
Ainsi, est-ce qu'il est possible de « profiter » entre guillemets de la période en cours pour s'interroger sur ce qu'est ou devrait être la décroissance?
La décroissance sera choisie, si possible, et c'est une occasion historique de réfléchir à nouveau à cette idée qui existe depuis 18 ans, très exactement, depuis 2002, mais qui n'avait encore jamais réussi à franchir le pas de l'expression politique. Elle est très présente dans le débat philosophique, chez les écologistes et même chez les militants en général, mais elle n'a encore jamais réussi à infuser dans aucun parti, par exemple, dans aucune liste électorale, ou qui ait eu un résultat électoral probant, qui l'aurait fait participer, par exemple, à une mandature ou une législature. Donc, est-ce qu'on va réussir à impulser l'idée de la décroissance? Moi, j'espère que oui, évidemment. C'est le moment de faire de la pédagogie. C'est le moment aussi de montrer que des alternatives peuvent apporter une réponse à une sortie de crise, des alternatives de solidarité, à une condition, bien entendu, c'est que les forces de l'ordre ne nous en empêchent pas. Parce qu'on oublie souvent que là est un point principal du changement politique. Tant que les forces de l'ordre restent au service des puissants et répriment durement les initiatives qui ne vont pas dans le sens de l'idéologie dominante, moi je pense qu'il n'y aura pas de changement politique d'envergure possible. Bon, c'est peut-être un peu désespérant, mais ça veut dire que nous devons essayer de convaincre les forces de l'ordre ou une partie d'entre elles de ne pas nous mettre des bâtons dans les roues, de ne pas nous entraver. Nous avons besoin qu'on nous laisse tranquilles. Nous avons besoin qu'on nous laisse la bride sur le cou pour expérimenter. C'est au moins cela dont nous avons besoin.
On a évoqué dans un premier temps la question du numérique en période de confinement. Et dans un deuxième temps, ce qu'est ou devrait être la décroissance. Pour faire un lien entre ces deux aspects, est-ce qu'on peut imaginer que le numérique serve la décroissance, s'inscrive dans une perspective de décroissance?
Bon, pour moi, la réponse est non. Le numérique est antinomique avec une perspective de décroissance. La décroissance, c'est le rejet de la société industrielle. Et s'il y avait quelque chose qui symbolise la toute-puissance de l'industrialisme, c'est Internet et la toile, les fermes informatiques, etc. Les serveurs et tout l'appareillage indispensable pour faire fonctionner le système. Donc je ne peux pas imaginer qu'on puisse récupérer d'une manière ou d'une autre le numérique dans une perspective de décroissance. Je sais que certains penseurs l'ont fait, notamment Thierry Caminel de l'Institut Momentum. On a lu aussi des choses un peu similaires chez Dominique Bourg et Christian Sperger, mais ce n'est pas très clair. Il y a eu comme une espèce de volonté de mettre les algorithmes au service d'une politique de décroissance, mais je ne vois pas comment on peut faire cela d'un point de vue philosophique. Retourner les armes de l'adversaire contre lui, je n'y crois pas. Et d'un point de vue strictement matériel et physique, force est de constater que Internet est tellement énergivore qu'il serait temps de s'en passer le plus vite possible avant d'arriver à des catastrophes énergétiques telles qu'elles nous sont prédites pour les années qui viennent. Rappelons donc Andrew Ellis, qui est un chercheur de l'Université de Bristol, a fait des calculs prospectifs pour montrer que en 2023, si le trafic continue à croître comme il le fait actuellement, eh bien Internet tombera en panne tout simplement, faute d'énergie suffisante pour alimenter les bandes passantes avec des milliards et des milliards de téraoctets qui seront échangés quotidiennement dans le monde. Voilà, donc pas de possibilité de récupérer la décroissance, le numérique, dans une société vers la transition décroissante.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait d'Internet ?
Alors maintenant, évidemment, on peut toujours très pragmatiquement utiliser la toile telle qu'elle fonctionne actuellement pour répandre les idées de la décroissance, ce que je fais moi-même, ce que beaucoup font, tout en sachant que cela finira un jour, et cela doit finir un jour. Et d'habitude, dans les débats, je dis un peu avec provocation que s'il y avait une hypothèse théorique, évidemment, une pétition qui réclamerait la suppression, l'arrêt définitif d'Internet, comme on demande l'arrêt immédiat du nucléaire, eh bien, je serais le premier à signer cette pétition. Voilà. Mais tant qu'évidemment que le système existe, je l'utilise assez parcimonieusement, mais j'espère un jour connaître un monde sans Internet avant de mourir. Donc je ne sais pas si ce sera possible, mais en fait je l'espérerai. Je suis prêt, moi en tout cas, à m'en passer et à revenir à des formes de communication plus anciennes, plus écologiques, moins rapides, et beaucoup plus à taille humaine, beaucoup plus adapté à notre métabolisme, à notre cerveau, à notre énergie, puisque de toute façon, il faudra relocaliser, eh bien, nous aurons moins besoin d'avoir un système qui nous permette de communiquer à l'autre bout de la planète pour un coût financier dérisoire, mais pour un coût écologique absolument impayable.